Première partie. De la Tamise à la Garonne. Chapitre 1. On ne s'évade pas de la Tour de Londres. Un énorme corbeau, noir, luisant, monstrueux, presque aussi gros qu'une oie, sautillait devant le soupirail. Parfois, il s'arrêtait, l'aile basse, la paupière faussement close sur son petit œil rond, comme s'il allait dormir. Puis soudain, détendant le bec, il cherchait à frapper les yeux d'homme qui brillaient derrière les barreaux du soupirail. Ses yeux gris, couleur de silex, semblaient attirer l'oiseau. Mais le prisonnier était vif et avait déjà reculé le visage. Alors le corbeau reprenait sa promenade, par sauts pesants et courts. L'homme à présent sortait la main hors du soupirail. Une belle main grande et longue, nerveuse. L'avançait insensiblement, la laissait inerte, pareille à une branche sur la poussière du sol, attendant l'instant de saisir le corbeau par le cou. L'oiseau lui aussi était rapide en dépit de sa taille. Il s'écartait d'un bond, lançant un croassement enroué. « Prends garde, Édouard, prends garde !» dit l'homme derrière la grille du soupirail. « Un jour, je finirai bien par t'étrangler. » Car le prisonnier avait donné à ce corbeau sournois le nom de son ennemi, le roi d'Angleterre. Il y avait 18 mois que le jeu durait, 18 mois que le corbeau visait les prunelles du détenu, 18 mois que le détenu avait envie d'étouffer l'oiseau noir. 18 mois que Roger Mortimer, 8e baron de Wigmore, grand seigneur des marches galloises et ex-lieutenant du roi en Irlande, était enfermé en compagnie de son oncle Roger Mortimer de Chirk, ancien grand juge du pays de Galles, dans un cachot de la Tour de Londres. L'usage eût voulu que des prisonniers d'un tel rang, qui appartenaient à la plus ancienne noblesse du royaume, fussent pourvus d'un logement décent. Mais le roi Édouard II, lorsqu'il s'était saisi en janvier 1322 après la bataille de Shrewsbury gagnée sur ses barons révoltés des deux Mortimer, leur avait assigné cette geôle étroite et basse, prenant son jour à ras de sol, dans les nouveaux bâtiments qu'il venait de faire construire à droite de la tour de la cloche. Obligé, sous la pression de la cour, des évêques et du peuple même, de commuer en réclusion perpétuelle la peine de mort qu'il avait d'abord décrétée contre les Mortimer, le roi espérait bien que cette cellule malsaine, cette cave où les fronts touchaient le plafond, ferait à terme office de bourreau. De fait, si les 36 ans de Roger Mortimer de Wigmore avaient pu résister à pareille prison, en revanche, 18 mois de brume coulant par le soupirail ou de pluie suintant des murs ou de touffeur épaisse stagnant au fond de ce trou durant la saison chaude semblait avoir eu raison du vieux lord de Chirk. Perdant ses cheveux, perdant ses dents, les jambes enflées, les mains tordues de rhumatisme, l'aîné des Mortimer ne quittait presque plus la planche de chêne qui lui servait de lit, tandis que son neveu se tenait près du soupirail, les yeux tournés vers la lumière. C'était le deuxième été qu'il passait dans ce réduit. Le jour, depuis 2 heures déjà, était levé sur la plus célèbre forteresse d'Angleterre, cœur du royaume et symbole de la puissance de ses princes, sur la tour blanche, construite par Guillaume le Conquérant et appuyée aux fondations même de l'ancien castrum romain, sur cet immense donjon carré, léger malgré ses proportions gigantesques, sur les tours d'enceinte et les murs crénelés du Richard Cœur de Lion, sur le logis du roi, sur la chapelle Saint-Pierre, sur la porte des traîtres. La journée serait chaude, pesante même, comme la veille l'avait été. Cela se devinait au soleil qui rosissait les pierres, ainsi qu'à l'odeur de vase un peu écœurante montant des douves et de la Tamise toute proche, dont l'eau baignait le remblai des fossés. Le corbeau Édouard avait rejoint les autres corbeaux géants sur la pelouse tristement fameuse, le Green, où l'on installait le billot les jours d'exécution capitale. Les oiseaux y picoraient une herbe nourrie du sang des patriotes écossais, des criminels d'État, des favoris tombés en disgrâce. On ratissait le green, on en balayait les chemins pavés sans que les corbeaux s'effarouchassent, car nul n'aurait osé toucher à ces animaux qui vivaient là, objet d'une vague superstition, depuis des temps immémoriaux. Les soldats de la garde, sortant de leur logis, achevaient hâtivement de boucler leurs ceinturons ou leurs houseaux, coiffaient leurs chapeaux de fer, et se rassemblaient pour la parade quotidienne qui, ce matin, prenait une importance particulière, car on était le 1er août, jour de Saint-Pierre-Eslien, auquel la chapelle était dédiée, et fête annuelle de la tour. Les verrous grincèrent à la porte basse de la cellule. Le geôlier porte-clés ouvrit, jeta un regard à l'intérieur, et laissa entrer le barbier. Celui-ci, un homme à petits yeux, à nez long, à bouche ronde, venait une fois la semaine raser Roger Mortimer le jeune. Pendant les mois d'hiver, cette opération était un supplice pour le prisonnier, car le constable Stephen Seagrave, gouverneur de la tour, avait déclaré « Si Lord Mortimer veut continuer d'être rasé, je lui enverrai donc le barbier, mais je n'ai pas obligation de le fournir d'eau chaude. » Et Lord Mortimer avait tenu bon, d'abord pour défier le constable, ensuite parce que son ennemi exécré, le roi Édouard, portait une jolie barbe blonde. Enfin, et surtout pour lui-même, sachant que s'il cédait sur ce point, il s'abandonnerait progressivement à la déchéance physique. Il avait sous les yeux l'exemple de son oncle, lequel ne prenait plus aucun soin de sa personne. Le menton broussailleux, les mèches éparses autour du crâne, le lord de Churk, après 18 mois de détention, avait l'apparence d'un vieil anachorète et se plaignait sans arrêt des multiples maux qui l'accablaient.
« Seules les douleurs de mon pauvre corps, disait-il, m'assurent que je suis encore vivant. »
Donc, Mortimer le jeune, semaine après semaine, avait accueilli le barbier Ogle, même lorsqu'il fallait casser la glace dans le bassin et que le rasoir lui laissait les joues sanglantes. Il en avait été récompensé, car il s'était aperçu, au bout de quelques mois, que cet Ogle pouvait lui servir de liaison avec l'extérieur. L'homme avait une âme étrange. Il était avide et capable aussi de dévouement. Il souffrait d'une situation subalterne qu'il jugeait inférieure à son mérite. L'intrigue lui offrait l'occasion d'une revanche secrète et d'acquérir, en partageant les secrets de grands personnages, de l'importance à ses propres yeux. Le baron de Wigmore était certainement l'homme le plus noble, à la fois de naissance et de nature, qu'il eût jamais approché. Et puis, un prisonnier qui s'obstine, même par temps de gel, à se faire raser, cela force l'admiration. Grâce au barbier, Mortimer avait donc établi un lien, ténu mais régulier, avec ses partisans, et particulièrement avec Adam Orleton, l'évêque de Hereford. Par le barbier encore, il avait su que le lieutenant de la tour, Gérard de Halspy, pouvait être gagné à sa cause. Par le barbier toujours, il avait mis sur pied la lente machination d'une évasion. L'évêque assurait qu'il serait délivré à l'été, et l'été était là. À travers le judas ménagé dans la porte, le geôlier, de temps à autre, lançait un regard, sans suspicion particulière, par simple habitude professionnelle. Le prisonnier, une écuelle de bois sous le menton, retrouverait-il jamais le bassin de fin argent martelé dont il se servait naguère, écoutait les propos de convenance que lui adressait le barbier à voix très haute pour donner le change. Le soleil, l'été, la chaleur. Il faisait toujours beau temps, c'était chose remarquable, le jour de la Saint-Pierre. Se penchant davantage sur son rasoir, Ogle souffla. « Be ready tonight, my lord. Soyez prêt pour ce soir. » Mortimer n'eut pas un tressaillement. Ses yeux couleur de silex, sous les sourcils bien fournis, se tournèrent seulement vers les petits yeux noirs du barbier. Celui-ci confirma d'un mouvement de paupière. « Halspy, » murmura Mortimer. « He'll go with us, » répondit le barbier en passant de l'autre côté du visage. « The bishop ?» demanda encore le prisonnier. « He'll be waiting for you outside after dark, » dit le barbier, qui, aussitôt, se remit à parler bien fort du soleil, de la parade qui s'apprêtait, des jeux qui se dérouleraient l'après-midi. Ainsi, Halspy venait avec lui et l'évêque l'attendrait à l'extérieur. Sa barbe faite, Mortimer se rinça le visage et s'essuya d'une toile sans même en sentir le contact. Et lorsque le barbier Hoggle fut parti en compagnie du porte-clés, le prisonnier s'étreignit la poitrine à deux mains et avala une grande gorgée d'air. Il se retenait de crier « Soyez prêts pour ce soir !» Ces mots lui bruissaient dans la tête. Se pouvait-il que ce fût pour ce soir, enfin ? Il s'approcha du bas-flanc où somnolait son compagnon de geôle. « Mon oncle, dit-il, ce sera pour ce soir. » Le vieux lord de Churk se tourna en gémissant, éleva vers son neveu ses prunelles décolorées qui brillaient d'une lueur glauque dans l'ombre de la cellule, et répondit avec lassitude. « On ne s'évade pas de la tour de Londres, mon garçon. Personne, ni ce soir, ni jamais. » Mortimer le jeune eut un mouvement d'irritation. Pourquoi cette obstination négative, ce refus du risque de la part d'un homme qui, au pire, avait si peu de vie à perdre? Il s'interdit de répondre pour ne pas s'emporter. Bien qu'ils parlassent français entre eux, comme toute la cour et la noblesse, alors que les serviteurs, les soldats et le commun peuple parlaient anglais, il craignait toujours d'être entendu. Mortimer revint au soupirail et regarda de bas en haut la parade, avec le sentiment exaltant d'y assister peut-être pour la dernière fois. Au niveau de ses yeux passaient et repassaient les houseaux de la troupe. De gros souliers de cuir frappaient les pavés. Et le lord de Wigmore ne pouvait s'empêcher d'admirer les évolutions précises des archers, ces remarquables archers anglais, les meilleurs d'Europe, qui tiraient jusqu'à 12 flèches à la minute. Au milieu du green, Alspie, le lieutenant, raide comme un pieu, criait les ordres à pleine voix et présentait la garde au constable. On comprenait mal que ce grand jeune homme, blond et rose, si attentif à son service, si visiblement animé du désir de bien faire, eût accepté de trahir. Il fallait qu'il eût été poussé par d'autres motifs que le seul appât de l'argent. Gérard de Halspie, lieutenant de la Tour de Londres, souhaitait, comme beaucoup d'officiers, de shérifs, d'évêques et de seigneurs, voir l'Angleterre débarrassée des mauvais ministres qui entouraient le roi. Sa jeunesse rêvait de jouer un rôle héroïque. De plus, il haïssait et méprisait son chef, le constable Seagrave. Ce dernier, un borgne à joues flasques, buveur et nonchalant, ne devait sa haute charge qu'à la protection précisément des mauvais ministres. Pratiquant ouvertement les mœurs dont le roi Édouard faisait étalage devant la cour, le constable se servait volontiers de sa garnison comme d'un harem. Et ses goûts le portaient par préférence vers les grands jeunes hommes blonds. Aussi, l'existence du lieutenant Halspie, fort dévot et éloigné du vice, était devenue un enfer. Ayant naguère repoussé les tendres assauts du constable, Halspie en subissait maintenant les continuelles persécutions. Il n'était de tracasserie, de vexation, que Seagrave ne lui infligea. Le borgne avait les loisirs de la cruauté. Dans l'instant même, passant l'inspection des hommes, il accablait son second de moqueries grossières pour des vétilles, pour un défaut d'alignement, pour une tache de rouille sur le fer d'un couteau, pour une minuscule déchirure dans le cuir d'un sac à flèches. Son œil unique ne cherchait que le défaut. Bien que ce fût fait, jour où de coutume les punitions étaient levées, le constable ordonna que 3 soldats fussent fouettés sur le champ à cause du mauvais état de leur équipement. Un sergent alla quérir les verges. Les hommes punis durent baisser leurs choses devant tous leurs camarades alignés. Le constable parut fort s'amusé du spectacle. « Si la garde n'est pas mieux tenue, la prochaine fois, Halspie, ce sera vous, » dit-il. Puis toute la garnison, à l'exception des sentinelles, se rendit à la chapelle pour entendre messe et chanter cantique. Les voix rudes et fausses parvenaient jusqu'au prisonnier, aux aguets derrière son soupirail. « Soyez prêts pour ce soir, my lord. » L'ancien délégué du roi en Irlande ne cessait de penser que le soir, peut-être, il serait libre. Une journée entière à attendre, à espérer, à craindre aussi. Craindre que Hoggle ne commît une sottise dans l'exécution du plan préparé, craindre que Halspie, à la dernière minute, ne soit ressaisi par le sens du devoir. Une journée à prévoir tous les obstacles fortuits, tous les éléments de hasard qui peuvent faire manquer une évasion. « Il vaut mieux n'y pas songer, se dit-il, et croire que tout ira bien. Les choses surviennent toujours différemment de ce qu'on a pu imaginer. Mais sa pensée revenait au même souci. Il y aura les veilleurs sur les chemins de ronde. Il fit un brusque saut en arrière. Le corbeau avait avancé en tapinois le long du mur, et il s'en était peu fallu cette fois qu'il n'atteignit l'œil du prisonnier. Ah, Édouard,
c'en est trop à présent, dit Mortimer entre les dents. L'un de nous deux, aujourd'hui, doit l'emporter.
La garnison venait de sortir de la chapelle et d'entrer au réfectoire pour les ripailles traditionnelles. Le geôlier reparut sur le seuil de la cellule, suivi d'un gardien chargé du repas des prisonniers. Le brouet de fèves, par exception, était engraissé d'un peu de viande de mouton.
« Forcez-vous à vous mettre debout, mon oncle, » dit Mortimer. « Et l'on nous prive même de la messe, comme des excommuniés, » dit le vieux lord sans bouger de son bas-flanc.
Le porte-clés s'était retiré. Les prisonniers seraient sans autre visite jusqu'au soir.
« Ainsi, mon oncle, vous êtes vraiment résolu à ne point m'accompagner ?» demanda Mortimer. « T'accompagner où, mon garçon ?» répondit le lord de Chirk. « On ne s'évade pas de la tour, je te le répète. Nul n'y est jamais parvenu. On ne se rebelle pas non plus contre son roi. Édouard n'est pas le meilleur souverain que l'Angleterre ait eu, certes non, et ces deux Despensers mériteraient bien d'être à notre place, mais on ne choisit pas son roi, on le sert. » Jamais je n'aurais dû vous écouter, Thomas de Lancastre et toi, quand vous avez pris les armes, car Thomas a été décapité. Et voilà où nous sommes.
C'était l'heure où, après quelques bouchées avalées, il consentait à parler d'une voix monotone et lasse, pour ressasser d'ailleurs les mêmes propos que son neveu entendait depuis 18 mois. Il ne restait plus rien à 67 ans chez Mortimer l'Ancien, du bel homme ni du grand seigneur qu'il avait été, fameux pour de fabuleux tournois donnés au château de Kenilworth et dont 3 générations parlaient encore. Son neveu s'efforçait en vain de ranimer quelques braises au cœur de ce vieil homme épuisé.
« D'abord, mes jambes ne me soutiendraient pas, » ajouta-t-il. « Que ne les essayez-vous un peu? Quittez donc votre lit, et puis je vous porterai, je vous l'ai dit. C'est cela. » Tu vas me porter par-dessus les murs, et puis dans l'eau, où je ne sais pas nager. Tu vas me porter la tête sur le billot, voilà, et la tienne avec. Dieu est peut-être en train de travailler à notre délivrance, et toi, tu vas tout ruiner par cette folie où tu t'entêtes. C'est toujours ainsi. La révolte est dans le sang des Mortimer. Rappelle-toi, le premier Roger de notre lignée, le fils de l'évêque et de la fille du roi Erfast. Il avait battu l'armée du roi de France sous les murs de son château de Mortemer-en-Bray, et pourtant, il enfonça si fort le conquérant, son cousin, que ses terres et ses biens lui furent ôtés.
Roger Mortimer de Wigmore, assis sur l'escabelle, croisa les bras, ferma les yeux et se renversa un peu pour appuyer les épaules au mur. Il lui fallait subir la quotidienne invocation des ancêtres, écouter Roger Mortimer de Chirk compter pour la 100e fois comment Ralph le Barbu, fils du premier Roger, avait débarqué en Angleterre aux côtés du duc Guillaume, et comment il avait reçu Wigmore en fief, et pourquoi, depuis, les Mortimer étaient puissants sur 4 comtés. Du réfectoire s'échappaient les chansons à boire que braillaient les soldats en fin de repas.
« De grâce, mon oncle !» s'écria Mortimer le jeune. « Abandonnez un moment nos aïeux. Je n'ai pas si grand hâte que vous de les retrouver. Oui, je sais que nous descendons d'un roi, mais le sang des rois est petit sang dans une prison. Est-ce le glaive d'Erfast de Danemark qui va nous délivrer? Où sont nos terres? Et nous sert-on nos revenus dans ce cachot? Et quand vous m'aurez redit encore les noms de nos aïeuls, Hadwig, Mélisinde, Mathilde la Mesquine, Walkeline de Ferrers, Gladouza de Braoz, sont-ce là les seules femmes dont je pourrais rêver jusqu'à mon dernier souffle ?»
Mortimer de Chirk demeura un moment interdit, contemplant distraitement sa main gonflée aux ongles démesurément longs et ébréchés. Puis il dit
« Chacun occupe sa prison comme il peut, les vieux avec le passé perdu, les jeunes avec les lendemains qu'ils ne verront pas. Toi, tu te comptes que toute l'Angleterre t'aime et travaille pour toi, que l'évêque Orleton est ton ami fidèle, que la reine elle-même œuvre à ton salut, et que tu vas tout à l'heure partir pour la France, pour l'Aquitaine, pour la Provence, que sais-je, et que tout le long de ton chemin, les cloches vont sonner la bienvenue. Et ce soir, tu verras, personne ne viendra. » Il se passa les doigts sur les paupières, d'un geste las, puis se tourna vers le mur. Mortimer le jeune revint au soupirail, glissa une main entre les barreaux et la posa, comme morte, sur la poussière. « L'oncle maintenant va somnoler jusqu'au soir, » pensait-il. « Et puis il se décidera à la dernière minute. De ce fait, ce ne sera point aisé avec lui. Et ne va-t-il pas tout faire échouer ?»« Ah, voilà Édouard !» L'oiseau s'était arrêté à peu de distance de la main inerte et essuyait son gros bec noir contre sa patte. « Si je l'étrangle, mon évasion réussira. Si je le manque, je ne m'échapperai pas. » Ce n'était plus un jeu, mais un pari avec le destin. Pour occuper son attente, tromper son anxiété, le prisonnier avait besoin de se fabriquer des présages, et il guettait d'un œil de chasseur l'énorme corbeau. Mais celui-ci, comme s'il avait discerné la menace, s'écarta.